Le pape eut à peine appris que César tenait ses ennemis entre ses mains, que, pressé à son tour de gagner la même partie, il fit annoncer au cardinal Orsino, quoiqu'il fût minuit, que son fils était emparé de Sinigaglia et qu'il l'invitait à venir le lendemain, dès le matin, causer avec lui de cette bonne nouvelle. Le cardinal, enchanté de cet accroissement de faveur, n'eut garde de manquer au rendez-vous donné. En conséquence, dès le matin, il monta à cheval pour se rendre au Vatican. Mais au détour de la première rue, il rencontra le gouverneur de Rome avec un détachement de cavalerie qui se félicita du hasard qui leur faisait faire même route et l'accompagna jusqu'au seuil du Vatican. Là, le cardinal mit pied à terre et commença de monter l'escalier. Mais à peine fut-il au premier palier que déjà ses mules et ses équipages étaient saisis et enfermés dans les écuries du palais. De son côté, en entrant dans la salle du perroquet, il se trouva, ainsi que toute sa suite, environné d'hommes armés qui le conduisirent à une autre salle qu'on appelait la salle du vicaire, et où il trouva l'abbé Alviano, le pronotaire Orsino, Jacques Santacroce et Rinaldo Orsino, qui étaient prisonniers comme lui. En même temps, le gouverneur recevait l'ordre de s'emparer du château de Montegiardino, qui appartenait aux Orsini, et d'en enlever tous les bijoux, toutes les tentures, tous les meubles et toute l'argenterie qui s'y trouverait. Le gouverneur s'acquitta en conscience de cette commission et apporta au Vatican tout ce dont ils étaient emparés, jusqu'au livre de compte du cardinal. En consultant ce livre, le pape s'aperçut de deux choses. L'une, qu'une somme de 2000 ducats était due au cardinal sans qu'il y eût le nom du débiteur, et l'autre, que le cardinal avait acheté, 3 mois auparavant, pour 1500 écus romains, une magnifique perle qui ne se retrouvait point parmi les objets qui étaient en son pouvoir. En conséquence, il ordonna qu'à compter de 7 heures, et jusqu'au moment où cette négligence dans les comptes du cardinal serait réparée, les hommes qui lui apportaient 2 fois par jour à manger de la part de sa mère n'entreraient plus au château Saint-Ange. Le même jour, la mère du cardinal envoya au pape les 2000 ducats, et le lendemain, sa maîtresse vint, sous des habits d'homme, apporter elle-même la perle réclamée. Mais sa sainteté, émerveillée de sa beauté sous ce costume, la lui laissa, à ce qu'on assure, pour le même prix qu'elle l'avait payé une première fois. Quant au cardinal, le pape permit qu'on lui apportât, comme par le passé, sa nourriture, de sorte qu'il mourut empoisonné le 22 février, c'est-à-dire le surlendemain du jour où ses comptes avaient été réglés. Le soir de sa mort, le prince de Squillace se mit en route pour prendre possession, au nom du défunt pape, des terres du défunt. Cependant, le duc de Valentinois avait continué sa route vers Città di Castello et Pérouse et s'était emparé de ces 2 villes sans coup férir, car les Vitelli s'étaient enfuis de la première, et Jean-Paul Baglione avait abandonné la seconde sans même essayer de faire résistance. Restait encore Sienne, où s'était enfermé Pandolfo Petrucci, le seul qui resta de tous ceux qui avaient signé la Ligue contre lui. Mais Sienne était sous la protection des Français. En outre, Sienne n'était pas des États de l'Église, et César n'avait aucun droit sur elle. Il se contenta donc d'exiger que Pandolfo Petrucci quittât la ville et se retirât à Luc, ce qui fut exécuté. Alors, tout étant tranquille de ce côté et la Romagne entière étant soumise, César Borgia résolut de retourner à Rome pour aider le pape à se défaire de ce qui restait des Orsini. La chose était d'autant plus facile que Louis XII, ayant éprouvé des revers dans le royaume de Naples, avait désormais trop à s'occuper de ses propres affaires pour s'inquiéter de celles de ses alliés. Aussi César, faisant pour les environs de la capitale du Saint-Siège ce qu'il venait de faire pour la Romagne, s'empara-t-il successivement de Vicovaro, de Serra, de Palombère, de Lanzano et de Cerveti. De sorte que, cette conquête achevée, César, n'ayant plus rien à faire et ayant soumis les États pontificaux depuis les frontières de Naples jusqu'à celles de Venise, revint à Rome pour concerter avec son père les moyens de convertir son duché en royaume. César y arriva tout juste à temps pour partager avec Alexandre la succession du cardinal Jean-Michel, qui venait de mourir empoisonné par un échanson qu'il avait pris des mains du pape. Le futur roi d'Italie trouva son père préoccupé d'une grande spéculation. Il avait, pour la solennité de la Saint-Pierre, résolu de faire 9 cardinaux. Or, voilà ce qu'il avait à gagner à cette nomination. D'abord, les cardinaux nommés laissaient tous des charges vacantes. Ces charges retombaient entre les mains du pape qui les vendait. Chacun des nouveaux élus achetait son élection plus ou moins cher selon sa fortune. Le prix, laissé aux caprices du pape, variait de 10 000 à 40 000 ducats. Enfin, comme devenus cardinaux, ils avaient, d'après la loi, perdu le droit de tester. Le pape n'avait qu'à les empoisonner pour hériter d'eux, ce qui le mettait dans la position du boucher qui, lorsqu'il a besoin d'argent, n'a qu'à égorger le mouton le plus gras de son troupeau. La nomination eut lieu. Les nouveaux cardinaux furent Giovanni Castellar Valentino, archevêque de Trani, Francesco Remolino, ambassadeur du roi d'Aragon, Francesco Soderini, évêque de Volterra, Melchior Coppi, évêque de Brissina, Nicola Fieschi, évêque de Fréjus, Francesco Desprate, évêque de Leone, Adriano Castellans, clerc de la Chambre, trésorier général et secrétaire des Brefs, Francesco Loris, évêque d'Elva, patriarche de Constantinople et secrétaire du pape, et Giacomo Casanova, pronotaire et camérier secret de sa sainteté. Le prix de leur simonie payée et les charges qu'ils avaient laissées vacantes vendues, le pape fit son choix sur ceux qu'il devait empoisonner. Le nombre fut fixé à 3, un ancien et 2 nouveaux. L'ancien était le cardinal Casanova et les nouveaux, messeigneurs Melchior Coppis et Adriano Castellans, qui avaient pris le nom d'Adrien de Corneto, de cette ville où il était né, et qui, dans ses charges de clerc de la Chambre, de trésorier général et de secrétaire des Brefs, avait amassé une immense fortune. En conséquence, ces choses arrêtées entre César et le pape, ils firent inviter ceux qu'ils avaient choisis pour être leurs convives dans une vigne située près du Vatican et qui appartenait au cardinal de Corneto. Dès le matin de ce jour, qui était le 2 août, ils avaient envoyé leurs serviteurs et leurs maîtres d'hôtel faire tous les préparatifs et César avait remis lui-même au sommelier de sa sainteté 2 bouteilles de vin préparées avec cette poudre blanche qui ressemblait à du sucre et dont il avait si souvent éprouvé les propriétés mortelles, lui recommandant de ne servir ce vin que lorsqu'il le lui dirait et qu'aux personnes qui lui indiqueraient. À cet effet, le sommelier avait mis le vin sur un buffet à part, recommandant sur toute chose au valet de ne point y toucher, ce vin étant réservé pour le pape. Vers le soir, Alexandre VI sortit à pied du Vatican, appuyé sur le bras de César, et se dirigea vers la vigne, accompagné du cardinal Carafe. Mais comme la chaleur était grande et la montée un peu rude, le pape, en arrivant sur la plateforme, s'arrêta un instant pour reprendre haleine. À peine y était-il qu'en portant la main sur sa poitrine, il s'aperçut qu'il avait oublié dans sa chambre à coucher une chaîne qu'il avait l'habitude de porter au cou et à laquelle pendait un médaillon d'or où était enfermée une hostie consacrée. Cette habitude lui venait d'une prédiction que l'astrologue lui avait faite que tant qu'il porterait une hostie consacrée, ni le fer ni le poison ne pouvaient avoir prise sur lui. Se voyant donc séparé de son talisman, il ordonna à Monseigneur Carafe de courir à l'instant même au Vatican, lui indiquant dans quel endroit de sa chambre il l'avait laissé, afin qu'il l'y prît et le lui apportât sans retard. Puis, comme la marche l'avait altéré, tout en faisant signe de la main à son envoyé de hâter le pas, il se retourna vers un valet et lui demanda à boire. César, qui de son côté aussi était altéré, lui commanda d'apporter 2 verres. Or, par un hasard étrange, il était arrivé que le sommelier venait de retourner au Vatican pour y prendre des pêches magnifiques dont on avait fait le jour même cadeau au pape et qu'il avait oublié d'apporter avec lui. Le valet s'adressa donc au sous-sommelier, lui disant que sa sainteté et Monseigneur le duc de Romagne avaient soif et demandaient à boire. Alors le sous-sommelier, voyant 2 bouteilles de vin à part et ayant entendu dire que ce vin était réservé au pape, prit une des bouteilles et, faisant porter par le valet 2 verres sur un plateau, leur versa de ce vin qu'ils burent l'un et l'autre sans se douter que c'était celui qu'ils avaient préparé eux-mêmes pour empoisonner leurs convives. Pendant ce temps, Monseigneur Carafe accourait au Vatican et, comme il était familier au palais, monta à la chambre du pape, une lumière à la main et sans être accompagné d'aucun domestique. Au tournant d'un corridor, le vent souffla la lumière. Néanmoins, renseigné comme il l'était, il continua sa route, pensant qu'il n'avait pas besoin d'y voir pour trouver l'objet qu'il venait chercher. Mais en ouvrant la porte de la chambre, le messager recula d'un pas en jetant un cri de terreur. Une vision terrible venait de lui apparaître. Il lui semblait avoir devant les yeux, au milieu de la chambre, entre la porte et le meuble où était le médaillon d'or, Alexandre VI, immobile et livide, couché dans une bière, aux quatre coins de laquelle brûlaient quatre flambeaux. Le cardinal resta un instant, les yeux fixes et les cheveux hérissés, n'ayant point la force d'aller ni en avant ni en arrière. Mais, pensant enfin que tout cela était un prestige de ses sens, ou une apparition infernale, il fit le signe de la croix, en invoquant le saint nom de Dieu. Tout s'évanouit aussitôt, flambeaux, bières, cadavres, et la chambre mortuaire rentra dans l'obscurité. Alors le cardinal Carafe, celui-là qui a raconté lui-même cet étrange événement, et qui fut depuis le pape Paul IV, entra résolument dans la chambre, et quoiqu'une sueur glacée lui coulât sur le front, il alla droit au meuble, et dans le tiroir indiqué, ayant trouvé la chaîne d'or et le médaillon, il les prit et sortit précipitamment pour aller les porter au pape. Il trouva le souper servi, les convives arrivés et sa sainteté prête à se mettre à table. Du plus loin qu'elle le vit venir, sa sainteté, qui était très pâle, fit un pas vers lui. Carafe doubla la marche et présenta à sa sainteté le médaillon. Mais, au moment où le pape étendait le bras pour le prendre, il se renversa en arrière en jetant un cri qui fut aussitôt suivi de violentes convulsions. Quelques minutes après, et comme il s'avançait pour lui porter secours, César fut saisi du même mal. L'effet avait été plus rapide qu'à l'ordinaire, car César avait doublé la dose du poison, et l'état de chaleur où ils étaient tous deux quand il l'avait pris augmentait sans doute son activité. On transporta les deux malades côte à côte jusqu'au Vatican, où ils se séparèrent pour aller chacun à son appartement. À compter de cette heure, ils ne se revirent plus. À peine au lit, le pape fut pris d'une violente fièvre qui ne céda ni au vomitif ni au saigné et qui nécessita presque aussitôt l'application des derniers sacrements de l'Église. Cependant, l'admirable constitution de son corps, qui semblait avoir trompé la vieillesse, lutta 8 jours contre la mort. Enfin, après les 8 jours d'agonie, il mourut sans avoir nommé une seule fois ni César ni Lucrèce, qui étaient cependant les deux pôles sur lesquels avaient tourné toutes ses affections et tous ses crimes. Il était âgé de 72 ans et en avait régné 11. Quant à César, soit qu'il eût moins bu du fatal breuvage que son père, soit que sa jeunesse l'emporta par sa force sur la force du poison, soit enfin, comme l'ont dit quelques-uns, qu'il eut, en rentrant dans son appartement, avalé un contrepoison qui n'était connu que de lui, il ne perdit pas un instant de vue la position terrible où il se trouvait, et, ayant fait venir son fidèle Michelotto avec ceux de ses hommes sur lesquels il pouvait le plus compter, il distribua la troupe dans les diverses chambres qui précédaient la sienne et ordonna au chef de ne point quitter le pied de son lit et de dormir couché sur une couverture et la main sur la poignée de son épée. Le traitement avait été le même pour César que pour le pape. Seulement, aux vomitifs et aux saignées, on avait ajouté des bains étranges que César avait demandé lui-même, ayant entendu dire qu'ils avaient autrefois, dans un cas pareil, guéri le roi Ladislas de Naples. 4 poteaux, fortement scellés au parquet et au plafond, s'élevaient dans sa chambre, pareils à cette machine où les maréchaux ferrent les chevaux. Chaque jour, un taureau y était amené, renversé sur le dos et lié par les 4 jambes aux 4 poteaux. Puis, quand il était attaché ainsi, on lui faisait au ventre une entaille d'un pied et demi, par laquelle on tirait les intestins, et César, se glissant dans cette baignoire vivante encore, y prenait un bain de sang. Le taureau mort, César sortait pour être roulé dans des couvertures bouillantes où, après d'abondantes sueurs, il se sentait presque toujours soulagé. De 2 heures en 2 heures, César envoyait demander des nouvelles de son père. À peine eut-il appris qu'il était mort que, quoique encore mourant lui-même, rappelant cette force de caractère et cette présence d'esprit qui lui était habituelle, il ordonna à Michelotto de fermer les portes du Vatican avant que le bruit de cette mort ne fût répandu dans la ville, et défendit qu'on laissât entrer dans l'appartement du pape, qui que ce fût, tant qu'on n'en aurait pas enlevé les papiers et l'argent. Michelotto obéit aussitôt, alla trouver le cardinal Casanova, lui mit le poignard sur la gorge, se fit délivrer les clés des chambres et des cabinets du pape, et, conduit par lui, en enleva deux coffres pleins d'or qui pouvaient contenir 100 000 écus romains en espèces, plusieurs caisses pleines de bijoux et une grande quantité d'argenterie et de vases précieux. Tout fut transporté dans la chambre de César. Les postes qui le gardaient furent doublés, puis les portes du Vatican ayant été rouvertes, on proclama la mort du pape. Cette mort, pour être attendue, n'en produisit pas moins un effet terrible par toute la ville, car, quoique César fût vivant encore, son état de maladie laissait chacun en suspens. Certes, si le vaillant duc de Romagne, si le puissant condottiere, qui avait pris en 5 ans 30 villes et 15 forteresses, eût été assis, l'épée à la main, sur son cheval de bataille, les choses n'eussent point été un instant flottantes et incertaines, car, ainsi qu'il le dit depuis à Machiavel, son génie ambitieux avait tout prévu pour le jour de la mort du pape, excepté que lui-même serait mourant. Mais il était cloué dans son lit, suant son agonie empoisonnée, de sorte que, quoiqu'il eût conservé la pensée, il avait perdu le pouvoir et qu'il était forcé d'attendre et de subir les événements, tandis qu'il lui aurait fallu marcher au-devant d'eux et les maîtriser. Il fut donc forcé de régler ses actions, non plus d'après son plan, mais d'après les circonstances. Ses ennemis les plus acharnés, ceux qui pouvaient le serrer de plus près, étaient les Orsini et les Colonna. Aux uns il avait pris le sang, aux autres les biens. Il s'adressa à ceux à qui il pouvait rendre ce qu'il avait pris et entama des négociations avec les Colonna. Pendant ce temps, on procédait aux obsèques pontificales. Le vice-chancelier avait envoyé des ordres aux membres élevés du clergé, aux supérieurs des couvents et aux confrères des séculiers de ne point manquer, sous peine d'être dépouillés de leurs dignités et offices, de se rendre, selon la coutume ordinaire, chacun avec sa compagnie, au Vatican pour y assister aux funérailles du pape. Chacun, en conséquence, se rendit au jour et à l'heure indiqués au palais pontifical, d'où le corps devait être transporté à l'église Saint-Pierre, où il devait être enterré. On trouva le cadavre seul et abandonné dans la chambre mortuaire, car tout ce qui s'appelait Borgia, excepté César, s'était caché, ne sachant pas ce qui allait se passer. Et c'était bien fait à eux, car plus tard, un seul ayant été rencontré par Fabio Orsino, celui-ci le poignarda, et, en signe de cette haine qu'ils s'étaient jurés les uns aux autres, se lava la bouche et les mains avec son sang. L'agitation, au reste, était si grande dans Rome qu'au moment où le cadavre d'Alexandre VI allait entrer dans l'église, il s'éleva une de ces rumeurs, comme il en passe tout à coup par les airs, dans les temps d'orage populaire, ce qui produisit à l'instant même un si grand trouble dans le cortège que les gardes se rangèrent en bataille, que le clergé se réfugia dans la sacristie, et que, le porteur ayant laissé tomber la bière et le peuple ayant arraché le drap qui le recouvrait, le cadavre se trouva découvert et chacun put voir de plus près et impunément celui qui, 15 jours auparavant, faisait d'un bout du monde à l'autre trembler princes, rois et empereurs. Cependant, par cette religion du sépulcre que chacun éprouve instinctivement et qui est la seule qui survive aux autres dans le cœur même de l'athée, la bière fut reprise et portée au pied du grand autel de Saint-Pierre où, soulevée sur des tréteaux, elle fut exposée à la vue du public. Mais le pape était devenu si noir, si difforme et si enflé qu'il était horrible à voir. Son nez laissait échapper une matière sanguinolente, sa bouche béait hideusement, et sa langue était si monstrueusement enflée qu'elle en remplissait toute la cavité. À cet aspect effroyable, il se joignait une fétidité si grande que, quoique l'on ait coutume aux funérailles des papes de baiser la main qui porta l'anneau du pécheur, pas un ne se présenta pour donner aux représentants de Dieu sur la terre cette marque de religion et de respect. Vers les 7 heures du soir, c'est-à-dire quand le jour tombant ajoute encore une si grande tristesse au silence des églises, 4 crocheteurs et 2 ouvriers charpentiers portèrent le cadavre dans la chapelle où il devait être enterré et, l'ayant enlevé de son catafalque de parade, le couchèrent dans la bière qui devait être son dernier palais. Mais il se trouva que la bière était trop courte, de sorte que le corps n'y put tenir qu'en lui ployant les jambes et en les faisant entrer à grands coups de poing. Alors les charpentiers posèrent le couvercle et, tandis que l'un d'eux était assis dessus pour forcer les genoux de plier, les autres la clouèrent au milieu de ces plaisanteries shakespeariennes, dernière oraison qui retentit à l'oreille des puissants. Puis il fut, dit Tommaso Tommasi, placé à gauche du grand hôtel Saint-Pierre, sous une assez vilaine tombe. Le lendemain, on trouva cette épitaphe écrite sur la pierre. « Vendit Alexander Claves, Altaria Christum. Emerat ille prius, vendere iure potest. » C'est-à-dire, Alexandre vendit les clés, l'autel et le Christ. Au reste, il pouvait les vendre, les ayant achetés auparavant. Par l'effet que la mort d'Alexandre VI avait produit à Rome, on peut juger de celui qu'elle produisit non seulement dans toute l'Italie, mais encore dans tout le reste du monde. Un instant, l'Europe plia, car la colonne qui soutenait la voûte de l'édifice politique s'était écroulée, et l'astre au regard de flamme et aux rayons sanglants, autour duquel tout gravitait depuis 11 ans, venait de s'éteindre. Si bien que le monde, frappé tout à coup d'immobilité, demeura un instant dans les ténèbres et le silence. Cependant, après le premier moment de stupeur, tout ce qui avait une injure à venger se souleva et accourut à la curée. Sorta reprit Pesaro, Baglione, Pérouse, Guy d'Ubaldo, Urbain et la Rovere, Sinigaglia. Les Vitelli rentrèrent dans Città del Castello, les Appiani, dans Piombino et les Orsini à Monte Giordano et dans leurs autres états. La Romagne seule resta immobile et fidèle, car le peuple, qui n'a rien à juger dans les querelles des grands, pourvu qu'elles ne descendent pas jusqu'à lui, n'avait jamais été si heureux que sous le gouvernement de César. Quant aux colonnes, ils s'étaient engagés à garder la neutralité, moyennant quoi ils avaient été remis en possession de leurs châteaux et de leurs cités de Cinazzano, de Capodanno, de Frascati, de Rocca di Papa et de Nettuno, qu'ils trouvèrent en meilleur état qu'ils ne les avaient quittés, le pape les ayant fait embellir et fortifier. César, au reste, tenait toujours le Vatican avec ses troupes, qui, fidèles à sa mauvaise fortune, veillaient autour du palais où il se tordait sur son lit de douleur en rugissant comme un lion blessé. De leur côté, les cardinaux, qui, au lieu de veiller aux obsèques du pape, s'étaient dans leur première terreur dispersés chacun de son côté, commencèrent à se réunir tantôt à la Minerve, tantôt chez le cardinal Carafe. Effrayé des forces qui restaient à César, et surtout de ce que le commandement en était remis à Michelotto, ils réunirent tout ce qu'ils avaient d'argent pour lever de leur côté une armée de 2000 soldats, dont Charles Taneo fut nommé chef, avec le titre de capitaine du Sacré Collège. On espérait donc que la tranquillité était rétablie, lorsqu'on apprit que Prosper Colonna arrivait avec 3000 hommes du côté de Naples, et Fabio Orsino du côté de Viterbe, avec 200 chevaux et plus de 1000 fantassins. En effet, ils entrèrent dans Rome à un jour de distance l'un de l'autre seulement, tant chacun d'eux y était amené par une ardeur pareille.